France Culture.
C'est le journal de la rédaction, journal présenté par vous, Julie Paco. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Pour tenter de trouver un accord de cessez-le-feu à Gaza, un nouveau cycle de négociations indirectes débute aujourd'hui au Qatar, mais Israël refuse pour l'heure les conditions posées par le Hamas. 50 morts dans des inondations au Texas, le bilan ne cesse de s'alourdir deux jours après la subite crue du fleuve Guadalupe provoquée par les pluies diluviennes. 27 enfants sont toujours recherchés. Y aura-t-il un accord entre l'Union européenne et Washington sur les droits de douane avant la date butoir du 9 juillet fixée par Donald Trump ? Bercy hausse le ton aujourd'hui et appelle l'Union européenne à plus de vigueur. Et puis 20 ans après sa mort, ses premiers romans refont leur apparition. Les œuvres de jeunesse de Claude Simon, parues en 1945 et 1947, sont rééditées par les éditions de Minuit. Une délégation de négociateurs israéliens attendue à Doha, au Qatar, aujourd'hui, pour participer aux pourparlers indirects en vue d'un accord de trêve à Gaza, parrainé par les États-Unis. Et ce, malgré les déclarations de Benjamin Netanyahou hier soir, le Premier ministre israélien considère comme inacceptables les propositions soumises par le Hamas vendredi. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, les modalités du retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza sont rejetées par le gouvernement israélien.
Oui, le différend à ce stade porte essentiellement sur le redéploiement de l'armée israélienne dans le cadre de l'accord de trêve. Israël entend rester sur plusieurs axes considérés comme primordiaux, notamment au sud de l'axe dit de Morag. Autre point de discorde, l'aide humanitaire. Le Hamas exige la suppression du système mis en place par les États-Unis et par Israël et le retour à la distribution par l'intermédiaire des agences de l'ONU. C'est donc une réponse cinglante du bureau du Premier ministre israélien la nuit dernière. Les modifications demandées par le Hamas sont tout simplement inacceptables, souligne le communiqué du bureau du Premier ministre israélien. Israël donne cependant le feu vert à la reprise de négociations sur la proposition qatarienne. Quoi qu'il en soit, donc, l'équipe de négociateurs israéliens va se rendre à Doha cet après-midi. Benjamin Netanyahou, lui, dans le même temps pratiquement, va prendre l'avion pour Washington. Le Premier ministre israélien doit être reçu demain à la Maison-Blanche. Et c'est là, lors de sa rencontre entre Netanyahou et Donald Trump, que tout va réellement se jouer.
Et les réactions, Michel, sont très fortes, hein, tant à l'extrême droite que chez les familles d'otages.
Échange d'invectives lors de la réunion du cabinet le dit dernier, pratiquement des cris entre le chef d'état-major et le ministre d'extrême droite, Bezalel Smotrich. Ce dernier accuse le général Eyal Zamir de ne pas suivre les ordres de l'échelon politique, notamment en ce qui concerne la livraison d'aide alimentaire dans la bande de Gaza. Des critiques aussi contre le premier ministre Netanyahou. Alors il est clair que cet accord pourrait coûter à Benjamin Netanyahou sa coalition gouvernementale. Quant aux familles des otages, eh bien, elles exigent le retour de tous en un seul bloc et non pas en 5 vagues comme prévu par l'accord qui stipule la libération de 10 otages seulement sur les 20 présumés vivants toujours captifs à Gaza.
Michel Paul en direct de Jérusalem pour France Culture. Kiev annonce avoir détruit 117 drones russes au-dessus de son territoire la nuit dernière. D'après les forces armées ukrainiennes, la Russie a lancé 4 missiles anti-aériens ainsi que 157 drones d'attaque de type Shahed, selon l'armée de l'air. Certains s'étant abattus sur la capitale Kiev, blessant au moins 3 personnes. Le ministère de la Défense russe indique de son côté que 120 drones ont été abattus ou interceptés dans la nuit au-dessus de la Russie. Une 30aine d'enfants toujours portés disparus au Texas où les secours poursuivent sans relâche leur recherche après des inondations meurtrières et très soudaines dans la région de San Antonio vendredi. Au moins 50 personnes sont mortes, emportées en partie par le fleuve Guadalupe, dont le niveau a monté de 8 mètres en 45 minutes. L'alerte inondation est maintenue et les secours sont massivement déployés pour retrouver les survivants. Loïc Piala.
Tai Badon crie le nom de sa fille le long de la rivière, avec l'espoir de l'entendre lui répondre. Joyce Catherine, 21 ans, était en week-end avec des amis, mais elle n'a plus donné de nouvelles depuis 4h du matin vendredi, raconte ce père de famille à CNN.
Si vous allez voir la maison où elle dormait là-bas, ce n'est pas bon signe. Mais j'espère qu'on trouvera nos enfants vivants, ma fille et ses amis. À tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, priez.
Les autorités ne peuvent pas donner de chiffres précis sur le nombre de disparus, a expliqué Dalton Rice, le manager de la municipalité de Kerrville.
Parce qu'on ne sait pas, des gens sont venus camper pour le week-end du 4 juillet, des gens campent le long de la rivière, d'autres sont juste de passage.
On sait en revanche que 27 jeunes filles de la colonie de vacances Camp Mystique sont toujours portées disparues. Beaucoup ont été sauvées, parfois évacuées par hélicoptère, comme la fille de Serena, interviewée par la chaîne News Nation.
Ma fille de 9 ans a été réveillée par une amie, raconte-t-elle. L'eau entrait dans leur dortoir. Les moniteurs leur ont sauvé la vie en cassant des fenêtres pour qu'elle puisse sortir par l'arrière du cabanon.
Tous les efforts se portent sur la recherche de survivants. Mais un début de polémique a fait surface. Pourquoi les services météo n'ont-ils pas anticipé l'intensité des pluies de vendredi matin ?
Une polémique liée notamment aux coupes budgétaires effectuées ces derniers mois par la Maison-Blanche au sein de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, qui a dû se séparer de 20% de ses effectifs. Elle a justement pour fonction d'observer et de mesurer l'impact du changement climatique. La Tara Polar Station fait route vers le Grand Nord, l'observatoire scientifique en forme de madeleine destiné à dériver sur la banquise arctique à 20 reprises effectue sa première longue navigation dans les glaces. Elle vient de quitter Longyearbyen, tout au nord de la Norvège. Et au-delà du cercle polaire, eh bien Sophie Bécherel a pu joindre l'équipage à bord.
Pour cette phase de test, seuls des marins sont à bord. À commencer par le capitaine Martin Herthaud, habitué de la goélette Tara, mais qui réalise sa première navigation sur la station polaire flottante.
On a une super météo, on est entre l'île du Rovska et puis l'île du Prince Charles. Mer d'huile, on dirait presque du mercure, et on fait route nord vers la banquise.
Dans quelques heures, le bateau retrouvera, à la lisière de la banquise, le Polar Stern. Ce brise-glace de recherche allemand va lui ouvrir la voie pendant 2 jours, puis il est prévu que la Tara Polar Station soit soulevée par la glace, exactement comme lors d'une dérive arctique où le bateau enserré dans un étau glacé est poussé par le courant polaire.
C'est 8 mois qui viennent, on a besoin de tester le bateau. Donc il y a les systèmes, il y a la structure, il y a le déploiement des engins. Là, on vise au moins 2-3 semaines en conditions dérive.
De toute façon, tout a été prévu pour ces longues périodes d'isolement. Pour 17 personnes pendant 18 mois, il a fallu embarquer 10 tonnes de nourriture. Carole Pierre, la chef cuisinière, a fait ses courses pour offrir à l'équipage du réconfort dans le grand froid.
C'est stratégique que ce soit bon et en bonne quantité et équilibré. On a tout ce qu'il faut, on a plein de produits séchés ou alors en conserve ou alors du frais. En fait, on peut vraiment tout faire. On fait aussi le pain à bord, les yaourts.
La première dérive totale de la Tara Polar Station aura lieu dans 1 an. Elle durera entre 300 et 500 jours, dont des périodes de nuit totale.
Sophie Bécherel, ils se présentent comme les avocats de la rue. Au Danemark, une équipe de juristes propose des services d'assistance juridique gratuits aux personnes vulnérables comme les sans-abri, les consommateurs de drogue ou les travailleurs du sexe. Ces avocats les aident à faire valoir leurs droits en matière de soins de santé, de logement, de problèmes avec la police ou avec la justice. Reportage à Copenhague d'Otilia Ferret.
La juriste Riquette Roelsen gare le vélo cargo rempli de nourriture et de boissons devant le H17, la plus grande salle de consommation de drogue supervisée au monde.
Je crois qu'il y a 800 à 1000 prises de drogue par jour ici. Beaucoup de ces personnes ont été abandonnées par le système, donc on doit établir un lien de confiance.
Une habituée, qu'on appellera S, s'approche avec sur le dos des sacs remplis de canettes et de bouteilles consignées. Elle n'a même pas besoin de le demander, qu'on lui sert déjà un chocolat chaud.
C'est si bon et avec plein de chantilly. C'est ce que je préfère. Et c'est fait avec amour. Ça me va droit au cœur. Ils m'ont aidé une fois pour contacter la commune.
Ça fait 3 ans que S vit dans la rue. Ce jour-là, elle vient de passer au H17 où elle consomme régulièrement du crystal meth et de l'héroïne.
Le personnel ici est éduqué et formé. Si quelqu'un vient ici en faisant une overdose, ils accourent. Ils sauvent tant de vies.
Une autre femme, Mia, s'approche et plonge la main dans le bocal à confiserie. Elle aussi sort du H17 où elle consomme de la cocaïne de manière quotidienne mais encadrée.
C'est bien plus sûr et propre de consommer ici que dehors. Je leur dis toujours bonjour. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé avec des problèmes sérieux, comme la fois où j'ai failli perdre mon appartement.
Au Danemark, les personnes dépendantes à la méthadone, par exemple, ont droit à une prise en charge gratuite des soins dentaires. Mais peu d'entre eux le savent.
Beaucoup de ces personnes ne connaissent pas leurs droits, mais nous, oui. Quand ils viennent vers nous, on peut les aider à entreprendre des démarches.
Le cargo est désormais vide et il est temps de partir. Mais tous le savent, les avocats des rues seront de retour dans 2 jours.
reportage d'Otilia Ferret à Copenhague. Alors combien y a-t-il exactement de sans domicile en France? Quels sont leurs parcours et leurs besoins? Eh bien l'INSEE termine cette semaine une très vaste enquête auprès de 10 à 15 000 personnes fréquentant les services d'aide destinés aux plus précaires. Près de 15 ans après la dernière enquête qui avait dénombré 143 000 personnes sans domicile. Les associations espèrent que les résultats de cette nouvelle enquête attendue fin 2026 produiront un électrochoc. Pour éviter l'application des droits de douane punitifs souhaités par Donald Trump, le ministre de l'économie, Eric Lombard, espère qu'un accord sera trouvé ce week-end avant la date butoir du 9 juillet fixée par Washington. Sans accord, l'Union européenne devra répondre avec plus de vigueur, insiste le ministre de l'économie, qualifiant au passage le président américain de caïd. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour.
La France réaffirme donc sa position offensive sur le dossier face au président états-unien.
Et ce n'est pas un hasard si à la fois Éric Lombard et Laurent Saint-Martin, le ministre du Commerce extérieur, dans les colonnes du Parisien, montent au créneau. On est, vous l'avez dit, dans la dernière ligne droite des négociations pour le moins difficiles pour la délégation de la Commission européenne qui est à Washington. Le ministre de l'économie compare la situation à une cour de récréation où règne une certaine harmonie jusqu'au moment où des caïds arrivent et ne respecte aucune règle, un monde de prédateurs. Laurent Saint-Martin rappelle quant à lui l'objectif ferme tenu par la France, soutenu par le Portugal, le Luxembourg et la Suède, obtenir un accord équilibré. Le deal ne devra pas être asymétrique, assure-t-il. Là où Donald Trump souhaite imposer des droits de douane horizontaux de 10%, le ministre plaide, lui, pour la préservation des secteurs clés européens, par exemple l'automobile, l'acier et l'aluminium, et pour la France spécifiquement, l'aéronautique, les vins et spiritueux, les cosmétiques et certains produits chimiques, précise le ministre. Sur ces secteurs, Laurent Saint-Martin dit chercher le 0-0, zéro droit de douane des deux côtés. Pas d'excès de confiance face à Donald Trump, d'autant que tous les pays européens ne tiennent pas tous la même ligne, tiraillés entre solidarité européenne et calcul national. La France, en tout cas, rappelle Laurent Saint-Martin, travaille depuis des mois sur des listes de produits américains qui pourraient être taxés si aucun accord n'est trouvé et que le coup prêt trumpien finit bel et bien par tomber.
Adrien Toffolet. Dans l'Hérault, le feu est maîtrisé après avoir parcouru 400 km de forêt et de végétation dans le massif de la Gardiole. Près de 200 pompiers vont rester mobilisés en surveillance toute la journée. Dans l'Aude, un autre incendie a parcouru hier 400 hectares de végétation, mobilisant plus de 300 pompiers et d'importants moyens aériens. Alors malgré la levée de l'alerte orange canicule, une partie de l'Hérault et tout le département des Bouches-du-Rhône sont placés en alerte rouge pour les feux de forêt, avec interdiction d'accès aux massifs forestiers. 20 ans après sa disparition, les deux premiers romans de Claude Simon refont leur apparition. Reniés pendant longtemps par le prix Nobel de littérature de 1985, Claude Simon avait écrit à ses débuts Le Tricheur et La Corde Raide, deux ouvrages réédités au sein d'un même volume par les éditions de Minuit, Chloé Le Prince.
Ces deux écrits de jeunesse, épuisés depuis longtemps et parus en 1945-1947 au Sagittaire, circulaient sous forme de copies pirates de mauvaise qualité. Mais c'est d'abord parce que Claude Simon lui-même avait commencé par s'opposer à leur republication, faute d'œuvres complètes, mais aussi parce que Claude Simon en personne estimait s'être montré un peu trop révolté ou provocateur à ses débuts. Mais pour Mireille Kalgruber, qui gère la postérité du Nobel et les réédite aujourd'hui, ces textes sont pourtant essentiels. Ils sont les archives de ses œuvres futures.
C'est inattaquable du fait que ce soit chez Minuit, la maison mère. Il n'aurait pas voulu, Claude Simon, et ce que j'ai refusé, c'est qu'il soit publié ailleurs, tout seul. Vous voyez, les premiers romans, tout seul chez un autre éditeur, mettons, et considéré comme une œuvre de jeunesse, un scoop, et détaché du reste. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'avait pas voulu. Parce que, du coup, il n'y avait pas cette continuité du travail, de la forme, qui, pour lui, est tellement capital, et puis ça dépréciait d'une certaine manière tout. Les premiers romans en disant « bon, on fait des œuvres de jeunesse et du Claude Simon plus facile », et puis après non, je pense que tout est lisible, tout est accessible, il faut avoir cette fidélité que lui-même a eue à sa propre œuvre.
Ses œuvres de jeunesse datent d'avant le passage au nouveau roman, et pourtant, en signant l'avant-propos du recueil pour en restaurer le contexte, Mireille Kalgruber rappelle que les motifs de Claude Simon sont déjà tous là.
Le dépérissement de la mère sous ses yeux alors qu'il a 11 ans et qu'elle dépérit d'un cancer. Toutes les références au collège Stanislas, qui est un collège où il a quand même été très très solitaire. Et il y a bien sûr la figure du père avec cette aura d'héroïsme qui a été pour lui un surmoi terrible, hein, qui revient aussi dans ses romans. Et puis, il y a bien sûr la débâcle sur la route des Flandres, la captivité, enfin, tout est là.
Et ce lien organique, c'est déjà ce que disait Maurice Merleau-Ponty dans les années 60. Il consacrait un cours au Collège de France à Claude Simon.
Chloé Le Prince pour France Culture. La météo cet après-midi avec des passages pluvieux qui se poursuivent et se décalent vers l'est du pays. À l'arrière, le ciel restera variable avec quelques éclaircies sur le nord-ouest. Des orages sont attendus sur l'est des Pyrénées, les Alpes et sur la Corse. Les températures sont en baisse, comptées 20 à 25 degrés sur le nord, 24 à 28 du sud-ouest aux Alpes et encore 34 à 36 degrés sur le Var et sur la Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce midi avec Alix Forgeau, Olivier Arnay à la technique.